France Culture.
C'est marrant parce qu'à chaque fois que je vais aux archives, j'ai toujours l'impression d'ouvrir des cadeaux. Parce que on sait jamais trop sur quoi on va tomber.
Donc là, c'est une grosse boîte marron avec un petit nœud très élégant.
Pour fermer la boîte. Alors, je vais sortir le premier dossier. Je regarde si ça peut nous intéresser parce que parfois. En fait, les archives de Marie Denisard, elles sont éparpillées dans les dossiers. Voilà.
4 janvier 1913.
On dira une femme chef d'État. Quelle plaisanterie! Et là, que dites-vous de la grande Catherine et de la reine Victoria? Ne furent-elles pas chefs d'État? Et la reine Wilhelmine et la grande duchesse du Luxembourg ne sont-elles pas actuellement chefs d'État? Et n'avons-nous pas vu dans notre France des régentes sur le trône de roi mineur? Ma candidature n'est pas si fantaisiste qu'on pourrait le croire. Elle signifie que la femme a le droit de prendre sa part du gouvernement, puisqu'elle paie sa part des impôts. Pourquoi les veuves, les célibataires, les divorcés ne voteraient-elles pas? Pourquoi ne seraient-elles pas éligibles? C'est là un programme féministe minimum, c'est le mien. Je me propose pour le faire aboutir. Qu'on m'élise présidente de la République pour voir.
Marie Denisard, de la présidentielle à l'asile. Un documentaire de Camille Desombres réalisé par Anne de Pelchin. Premier épisode, une candidate d'avant-garde.
Je pense qu'ils sont aussi dans les mêmes couleurs. Ça n'a pas l'air d'être elle. Ah, c'est celle-ci. Donc c'est une affiche plutôt rectangulaire. Orangé un peu rouge, on va dire. Donc on peut lire « Élection législative du 24 avril 1910 », écrit en haut, première circonscription d'Amiens. Et en gras et en très visible, on va avoir « Revendication et défense des droits de la femme ». Marie Denisard, écrit en gros, virgule, candidate.
Alors, Priscilla da Silva, vous êtes diplômée en histoire et vous avez réalisé le premier travail de recherche universitaire sur Marie Denisard. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez découverte?
Alors, j'ai fait un master recherche en histoire des femmes, précisément, sous la direction de Mathilde Larère, à l'université Gustave Eiffel. Et en fait, j'ai travaillé sur les candidatures féminines et féministes des élections législatives de 1910. Et c'est en allant dans les archives, en fouillant dans les journaux, que je suis tombée sur Marie Denisard. Et c'est là où j'ai vu qu'elle avait candidaté aux élections présidentielles et qu'on n'avait jamais parlé de cet événement-là. Alors Marie Denisard, elle est née à Pontru, dans l'Aisne, donc c'est près d'Amiens. Et elle est née le 3 avril 1172. On sait que son père était dentiste, sa mère est couturière, et elle a deux sœurs et un frère, donc elle est l'aînée des enfants Denisard. Si je devais citer son métier, ça serait publiciste, donc journaliste, puisqu'elle elle partage des articles, mais aussi d'une certaine manière, elle se disait publiciste et historien. Elle ne le féminisait pas, parce qu'elle s'est intéressée à plusieurs sujets, la loi salique, les femmes et l'Église, et les femmes et le militaire. Et donc, on peut citer ces deux métiers-là, même si historien, ça peut être quelque chose plutôt de l'ordre des travaux plutôt amateurs. Il faut savoir que sous la Troisième République, donc les femmes n'ont pas le droit de vote, et on considère qu'on n'a pas besoin de l'accorder aux femmes, parce que de toute façon, il y a déjà une voie politique dans le foyer, c'est celle du mari, du père de famille, du chef de famille. On peut penser que lorsque son père décède en 1904, eh bien, le foyer est dépourvu de représentation politique. Et donc, Marie Denisard a pu ressentir cette absence-là de reconnaissance, de représentation. Et ça a pu influencer cette idée de vouloir représenter les femmes, qu'elles soient éligibles et qu'elles puissent voter, qu'elles puissent s'exprimer par elles-mêmes.
Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'au moment où Marie Denisard se présente aux différentes élections auxquelles elle se présente...
Mathilde Larère, historienne.
Les femmes sont privées de droits civils, de droits politiques... C'est les femmes mariées, ce qui n'est pas le cas de Marie Denisard. Marie Denisard, comme elle n'est pas mariée, elle a une capacité civile. Elle peut rester en justice, elle peut faire un certain nombre de choses sans autorisation de son mari, puisqu'elle n'a pas de mari. Donc elle a une situation un tout petit peu privilégiée par rapport aux autres femmes, puisque la majorité des femmes sont mariées à l'époque. En revanche, les femmes n'ont pas de droit politique, elles n'ont pas le droit de voter et elles n'ont pas le droit d'être élues. Par ailleurs, économiquement, les femmes ont des salaires bien moindres que les hommes, même à métier, tâche, poste absolument équivalent. Et on est dans un moment où la misogynie va bon train, le sexisme est bien installé. Donc, situation pour les femmes qui est pour le moins préoccupante. Elles ont juste réussi à arracher au XIXe siècle l'égalité dans l'accès au droit à l'éducation. Et en 1907, la libre disposition de leur salaire.
Et quel est l'état de la lutte féministe au début du XXe siècle ?
Alors, c'est plutôt au début du XXe siècle, la lutte féministe est plutôt dans une période faste, au sens où se multiplient les associations de défense des droits des femmes. Il y en a beaucoup. Il y a des journaux 100% féministes aussi, et 100% féminins. C'est le cas de La Fronde, de Marguerite Durand. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a eu La Citoyenne d'Hubertine Auclert, qui là est plus, avec une ligne éditoriale plus nettement féministe, et il y en a d'autres qui existent. Il y a la première manifestation féministe, il y a une grande mobilisation pour le centenaire du Code civil en 1904, il y a donc ces candidatures de 1910. Avant, il y avait une candidature municipale en 1908 qui avait mobilisé ces mêmes féministes qui étaient même allées jusqu'à renverser une urne dans un bureau et casser avec un caillou une vitre d'un bureau de vote. Donc c'est un moment où il se passe des trucs très régulièrement, en fait, et où on parle souvent des féministes dans les journaux, où elles s'activent beaucoup.
Marie Denisard, elle s'intéresse tout d'abord au bien-être des ouvriers et des ouvrières, notamment dans le Chambard. Elle écrit un article sur les teinturiers d'Amiens où elle met en avant leur difficulté à se nourrir. Ensuite, évidemment, c'est les droits des femmes, les filles mères, voilà, les femmes qui pourraient être les plus fragiles dans la société. Et elle va également s'intéresser à la cellule familiale. Marie Denisard, c'est une femme qui a une opinion particulière que les autres féministes n'ont pas. On appelle ça un courant familialiste. Marie Denisard va défendre le schéma typique de l'époque, c'est-à-dire un homme au travail, une femme à la maison. Elle fait un raccourci assez fou en disant que plus la femme travaille, plus l'homme chôme, plus les cabarets s'ouvrent et plus la prostitution augmente et plus les hommes boivent de l'alcool. Donc l'idée, c'est les hommes ne savent pas se contenir, donc si on ne les met pas au travail, ils vont faire n'importe quoi. Et donc voilà, elle fait un raccourci pour justifier l'exclusion des femmes du travail. Et donc ça, c'est une marque assez importante qui va à l'encontre des pensées habituelles des féministes. Et peut-être que c'était une stratégie politique, mais du fait que ça revient à chaque fois, c'est possible que juste elle défendait ce modèle-là. Là, je fais attention à bien regarder page par page. Voilà, parce qu'on arrive sur les documents que je voulais voir. Donc ici, on est en présence de deux rapports écrits à la plume. C'est des rapports de police qui ont été effectués lors de réunions. Donc c'était des réunions qui étaient organisées par l'Union révolutionnaire d'Amiens. Donc on en a une qui a été faite le 16 avril 1910. L'Union révolutionnaire a appelé des candidats à venir s'exprimer face à la foule et Marie Denisard a été invitée. Donc elle a pu évoquer ses idées. Mademoiselle Marie Denisard, dans un langage très élevé,
a ensuite fait le procès des hommes qui sont les législateurs et qui ne veulent pas accepter les femmes,
lesquelles, dit-elle,
sont aussi capables qu'eux de faire les lois. Elle ajoute que la femme dans la vie sociale est aussi élevée que l'homme, qu'elle a plus de résistance que celui-ci, lequel, pour poursuite du travail corporel, est, vers 40 et 45 ans, déprimé, et que ses facultés physiques et morales sont bien diminuées, tandis que la femme, avec le même labeur et le souci du bonheur, résiste généralement plus longtemps.
Celui-là, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, voilà. Donc c'est une lettre qu'elle a écrite au préfet de la Somme, relative aux élections de 1910, et on y lit... Amiens, ce 9 avril 1910.
Préfet,
j'ai l'honneur de vous informer que...
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous informer que je, demoiselle Marie-Eugénie Gabrielle Denisard, demeurant à Amiens, 8 rue des Chaudronniers, pose ma candidature aux élections législatives du 24 avril 1910, dans la première circonscription d'Amiens, et je vous prie de vouloir bien en accepter la déclaration. Le vulgaire oppose l'article 6 de la loi de 1875 et l'article 1er de la loi de 1895 comme un obstacle à cette acceptation. S'il en était ainsi, il faudrait croire que le législateur de la Troisième République a été moins libéral envers la femme que les régimes antérieurs, ce qui serait raisonné par l'absurde. Une candidature féminine, tout comme une candidature masculine, ne se trouve dès lors soumise quant à l'éligibilité qu'à une seule loi, celle de la majorité. Il n'y a donc rien, légalement, qui s'oppose à l'acceptation de ma déclaration de candidature, et j'aime à croire, monsieur le préfet, que vous voudrez bien m'en faire délivrer le récépissé définitif. Veuillez agréer, monsieur le préfet, l'expression de ma bien distinguée considération. Marie Denisard.
Alors, assez vite, les femmes se sont présentées aux élections, quelles que soient les élections, ce alors qu'elles n'avaient ni le droit de vote, ni le droit d'être élues, car les législations et les constitutions ont en général oublié de préciser qu'elles n'avaient pas le droit d'être candidates. Donc, elles profitent de cette absence d'interdiction légale pour poser leur candidature, conscientes qu'elles sont toutes qu'elles ne seront pas élues. Mais c'est pour créer, en fait, ouvrir une brèche qui permette de parler des inégalités des droits des femmes. Donc la première à le faire, c'est Pauline Roland, c'est en 1848, et c'est au municipal de 1848. Ensuite, Jeanne de Rouen, qui est aussi une journaliste de La Voix des Femmes, présente sa candidature lors des législatives en juin 1849. Alors, ensuite, ça tend à disparaître sous le Second Empire, mais dans un contexte politique d'un régime très autoritaire, hein, qu'il explique aussi. Et on va retrouver cette stratégie de déposer sa candidature une fois la République installée. Alors, il y a quelques cas dans les années 80 que d'ailleurs Hubertine Auclert liste, hein, dans le livre qu'elle a écrit sur l'histoire du suffrage vraiment universel. Puis l'Allouez en 1908 à Paris et cette mobilisation plus massive, hein, de femmes lors des législatives de 1910, moment de candidature dans lequel intervient pour la première fois Marie Denisard.
Donc ici, on a le journal du Chambard. Donc de son nom complet, le Chambard et le Cafetier réunis.
C'est un journal régional de l'époque ?
C'est ça. Il s'avère que ça a l'air d'être plutôt un journal socialiste, peut-être anarchiste. Et donc, à première vue, on a un journal classique, sauf que toute la dernière page se consacre autour de la propagande de Marie Denisard. Donc le journal, vraiment, lui laisse une place très importante pour sa propagande. Et donc on lit « Revendications et défense des droits de la femme, élections municipales complémentaires », là en l'occurrence, au scrutin de ballottage du 14 août 1910, parce que Marie Denisard a candidaté à plusieurs élections en 1910. On retrouve en haut à gauche un bulletin. Donc c'est le type de bulletin qu'on pouvait découper pour présenter au bureau de vote. Voilà, il y a même une indication de détacher ce bulletin. Donc voilà, elle guide assez bien les électeurs. Je le rangerai après. Celui du 15 octobre, il est particulier parce que, en fait, Marie Denisard, elle ne s'arrête pas aux élections. Elle a mené une campagne auprès du Conseil général de la Somme. Donc elle est allée voir les élus pour les persuader de proposer le droit de vote des femmes à l'Assemblée. Et ici, donc, sur le journal du Chambard du 15 octobre 1910, on peut lire son succès. Parce que le Conseil général a accepté de voter, de proposer une loi sur le droit de vote des femmes. Et donc, même si la portée est surtout symbolique, parce que le droit de vote des femmes est déjà discuté, il y a déjà des projets de loi qui sont en route. Dans la propagande de Marie Denisard, c'est un peu la consécration. À travers cet article, elle montre tout son pouvoir, d'une certaine manière, de propagande et toute l'influence qu'elle a pu avoir dans la Somme. Marie Denisard, en 1913, elle candidate à l'élection présidentielle. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, ça part un peu comme un pari. En réalité, c'est le journaliste Fernand Housser qui écrit un article un peu provocateur pour expliquer comment on va élire le président de la République. Et il cible les féministes en disant qu'elles ne peuvent pas être élues puisque c'est précisé que c'est le président et pas la présidente ou pas d'alternative. Et donc, ici, il va écrire cette phrase « Elles n'ont qu'à essayer pour voir ». Et ça a dû résonner dans l'esprit de Marie Denisard où elle a décidé de candidater pour voir. Et Marie Denisard va être interviewée par Fernand Housser lorsqu'elle déclare sa candidature à l'élection présidentielle. Et ce qui est novateur, c'est que c'est la première femme à candidater à une élection présidentielle en France. Et donc, bien avant Arlette Laguiller, sauf qu'on avait complètement oublié cet épisode-là. Alors, j'ai apporté un bout, justement, de son programme qui est, je dirais, sa revendication phare.
Les femmes françaises, veuves, célibataires, divorcées majeures, doivent être électeurs et éligibles dans toutes les assemblées de la République, au même titre et qualité que les hommes. Occuper 70 sièges au Parlement par leurs 4 millions de suffrages et les 630 millions d'impôts qu'elles acquittent. Mariées, doivent être électeurs et éligibles dans toutes les assemblées de la République, au lieu et place de leur mari défaillant par volonté exprimée ou par cas fortuit de maladie ou d'absence.
Bravo. Merci de votre soutien. Le droit de vote pour les femmes. Mesdames, le droit de vote pour les femmes. Le pouvoir est entre vos mains. Merci, madame.
Arrêtez, rentrez chez vous.
Alors, la particularité, c'est qu'en 1913, ce n'est pas les citoyens et les citoyennes qui élisent le président de la République. Ce sont uniquement les élus. Donc, Marie Denisard, elle va aller rencontrer les députés, elle va aller à la sortie du Sénat pour partager son programme, pour voilà, marteler cette propagande féministe pour le droit de vote. Sauf que la personne qui sera élue à cette élection-là, donc c'est Monsieur Poincaré, et lui, apparemment, ne parlera pas du droit de vote des femmes dans sa campagne. C'est une candidature qui est perçue comme folle, comme quelque chose de farfelu, d'excentrique. La plupart des journalistes ne prennent pas au sérieux sa candidature. Alors parfois, il y en a qui soulignent son courage et qui la prennent au sérieux. Mais il y a une campagne très sexiste, très misogyne de cette candidature. Donc, comme elle est célibataire, c'est qu'elle a un problème ou que voilà, ça causerait des problèmes puisque une représentante célibataire, ça va causer des soucis, du désordre, puisque tous les politiciens vont vouloir la draguer, les représentants des autres nations aussi si elle était présidente. Donc comme quoi, ça créerait du désordre, ça créerait de la jalousie envers les femmes des élus de la nation. Son célibat, le fait que c'est une femme féministe, célibataire, donc elle est hystérique, on va la comparer à une prostituée. Enfin voilà, c'est vraiment des arguments typiques de l'antiféminisme de l'époque.
Mais mademoiselle Marie Denisard pense à tout et elle s'offre. Cette vierge forte a d'ailleurs une manière un peu naïve et tumultueuse de s'offrir. Je crains qu'on ne se refuse à la prendre. Nous voulons, en notre monde, un féminisme plus pondéré dans ses manifestations. Mademoiselle Marie Denisard représente le féminisme braillard et gesticulant. Ô candeur apostolique d'une provinciale surexcitée. Mademoiselle Denisard a écrit, paraît-il, de nombreux ouvrages d'érudition. Elle sévit surtout dans le département de la Somme, où, depuis 15 ans, elle s'agite de son mieux afin que les femmes qui passent pour être à tant point de vue supérieurs aux hommes, finissent par être simplement leurs égales.
Article de Jean-Ernest Charles dans Gil Blas, 6 janvier 1913.
On va parler d'elle en Allemagne, et sinon aux États-Unis, effectivement, on parle d'elle dans le New York Times et dans d'autres journaux célèbres, et donc ça montre la portée internationale de cette candidature, de ce choix-là. Alors autant l'article du New York Times, dans mes souvenirs, il est plutôt juste, il se base sur les faits, il explique la candidature. Mais en Allemagne, on va avoir le Cladera Datsch, désolé si je le prononce pas bien, qui fait une caricature assez virulente et on la représente cheveux courts, assez grosse, alors que finalement elle est plutôt fine, même très fine. Et on tombe dans des logiques encore antiféministes de base.
Et quelles vont être les réactions parmi les féministes à la candidature de Marie Denisard?
Alors, les réactions, elles vont être assez décevantes. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé en travaillant sur elle, puisque si on pourrait s'attendre à une coalition de la part des féministes, en fait, il n'en est rien. On va retrouver d'autres femmes connues dans le champ féministe, comme notamment Marguerite Durand, qui est issue plutôt d'un féminisme bourgeois. Et en l'occurrence, elle qui avait candidaté en 1910 ne soutient pas du tout Marie-Denise Arre en 1913. Elle va qualifier justement cette candidature de geste fâcheux, d'une fantaisie pure et dure. Et donc le fait que cette femme-là, qui est reconnue, s'en prenne à Marie-Denise Arre, c'est un souci pour Marie-Denise Arre, puisque on a une campagne de la part de journalistes masculins misogynes. Ici, elle vient un peu enfoncer le clou. Donc on a soit des féministes qui s'en prennent à elle, quelques-unes, mais rares, qui défendent son geste, et on a d'autres féministes qui sont juste dans un mutisme général, on ne les entend pas parler, elles ne commentent pas cette candidature. Et donc Marie-Denise Arre est assez isolée et assez seule face à cette propagande-là.
Les féministes, et c'est pour ça que je dis les féministes et je dis aussi les féminismes, ont toujours été divisés, et c'est une des caractéristiques, et c'est on ne peut plus normal. De même que les gauches ont été divisées, les droites ont été divisées, les socialistes ont été divisés. Donc il y a des divisions, et il y a des divisions sur plein de choses. Il y a des divisions sur la tactique, ce qui est le cas de la division des féministes par rapport à la candidature de Marie-Denise Arre à la présidence de la République, entre celles qui pensent que la tactique ne fera que mettre un coup d'éclairage sur Marie-Denise Arre conduisant à créer des moqueries et à la rendre ridicule, et que ce faisant, c'est tout le mouvement féministe qu'elle va ridiculiser. Donc c'est une question tactique, là. Après, il peut y avoir des divisions politiques plus profondes, parce que de fait, ben voilà, elles ont beau être toutes féministes, elles n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques. Certaines sont très clairement socialistes, voire anarchistes. D'autres sont républicaines plus classiques, plus libérales. Certaines même, plus tard, seront plutôt proches de la droite. Donc, et puis, il peut y avoir des inimitiés de personnes. Il y a plein de raisons qui expliquent ces divisions.
C'est M. Poincaré, c'est M. Poincaré, c'est le président de la République, et c'est M. Cochon, le président des sans-pognons.
Priscilla da Silva, est-ce que vous pouvez me décrire l'endroit où on se trouve ?
Alors on est à Amiens, donc on se situe à côté de la prison où a été enfermée Marie-Denise Arre pendant 15 jours. En 1914, Marie-Denise Arre était rédactrice en chef du Cri des Femmes, mais Georges Bonjean, qui était donc celui qui subventionnait le journal, ne l'a pas payée. Résultat, elle était en grande précarité et ça l'a menée à être face à un huissier à ce moment-là et donc à réagir aussi un peu de manière... impulsive, parce qu'elle était au pied du mur et parce qu'elle, tout simplement, elle n'en pouvait plus. Donc elle a menacé de mort l'huissier qui avait toqué à la porte de chez sa mère pour tout simplement la faire partir de ce logement-là. Elle l'avait accueilli, l'huissier, avec un revolver et lui avait fait bien comprendre que s'il passait le pas de la porte, elle le tuerait. Et elle a explicitement dit « Je vous tuerai et la société me nourrira ». Elle a passé 15 jours enfermée. Elle a demandé à des féministes de la soutenir et je crois aussi à des personnes élues pour essayer de la sortir de là. Et c'est là où justement il y a des féministes issues du journal La Française qui ont écrit un article pour la soutenir et pour que des gens viennent l'aider ou lui apportent du soutien face à cet emprisonnement. Suite à cela aussi, les journalistes vont bondir sur l'information en signifiant que, bah voilà, regardez, en fait, elle est juste folle et ça confirme un petit peu la vision qu'on avait d'elle avant. Et on va mettre toujours en avant le fait que c'est une féministe. Marie-Denise Arre vit à Amiens en 1914 et... Durant l'été 1914, donc c'est l'invasion allemande dans le nord de la France, et Marie-Denise Arre va aller à Bordeaux chez sa sœur Hélène, si je ne me trompe pas de sœur, et donc elle va se réfugier là-bas. C'est assez dramatique, j'ai envie de dire, dans sa vie, puisque dès 1914, elle commence déjà à avoir des problèmes d'argent. Elle est assez précaire parce que, je ne l'ai pas précisé, mais être publiciste Et surtout, être une femme publiciste, ça rapporte pas tant que ça. Et Marie Denisard, à ce moment-là, elle est dépossédée de ses biens, puisqu'elle a laissé une partie de sa vie à Amiens, elle a plus de logement, et elle s'occupe de sa mère qui est malade. Et donc, elle va vivre des soutiens pour les réfugiés, et elle va réclamer de l'argent à droite à gauche, elle va demander des aides comme ça. Et donc, sa situation économique ne va faire qu'empirer.
Et pour quel motif Marie Denisard va-t-elle être mise sous surveillance par la police ?
Alors, pendant la guerre, elle est soupçonnée de diffuser des tracts pour la paix. Et à ce moment-là, être pacifiste, c'est pas acceptable. C'est être un ennemi de la nation, un ennemi de l'intérieur. C'est comme ça qu'on pouvait les nommer. Et Marie Denisard va donc être soupçonnée de diffuser ces tracts-là. Et donc ça se passe en janvier 1915. Et même si on se rend compte que c'est pas elle qui diffuse les tracts, on va quand même la garder sous surveillance. Et c'est comme ça qu'on va avoir des informations sur elle et sur sa vie en 1914 et sur sa précarité, justement.
Les renseignements fournis sur cette personne sont plutôt défavorables. Dans les conversations avec les autres réfugiés qui habitent avec elle dans la même maison, elle se dit tantôt très riche, tantôt très pauvre et parente de personnalités politiques dont elle ne cite jamais les noms. Elle s'occupe beaucoup des événements actuels et propage souvent de fausses nouvelles. On a remarqué également qu'elle éprouve une certaine satisfaction lorsque les journaux annoncent diverses opérations militaires qui ont eu des suites favorables pour les Allemands. Au comité des réfugiés, on confirme les renseignements qui précèdent. On y considère Mademoiselle Denisard comme une demi-folle, une névrosée, parlant à tort et à travers sans trop se rendre compte de ce qu'elle dit, et comme recherchant surtout des aumônes et des secours qu'elle sollicite un peu partout. Étant donné qu'elle reçoit 3 francs par jour du comité et qu'elle est logée gratuitement, j'estime qu'il y a des situations plus intéressantes que la sienne.
Rapport de la Sûreté Générale au ministre de l'Intérieur, 1er décembre 1914.
Alors, je ne sais pas si elle sait qu'elle a été surveillée, si elle sait qu'il y a un dossier qui a été fait sur elle, puisque c'est la Sûreté Générale qui l'a menée, donc c'est possible qu'elle n'ait jamais été au courant. Néanmoins, c'est à partir de là qu'on commence à voir que, psychologiquement, elle commence à peiner et à être mal en point, mais en même temps, la guerre a stoppé le mouvement qui commençait à prendre autour du droit de vote des femmes, et donc en fait, les féministes, elles sont lassées, elles perdent espoir, et Marie Denisard, elle entre dans cette catégorie, je pense. Elle va commencer à sombrer dans une forme de paranoïa, puisqu'elle commence, elle écrit des lettres à divers politiciens, des lettres ouvertes, où elle va les accuser de voler son argent. Elle va penser que des hommes, des politiciens particulièrement, vont essayer de lui nuire. Et ça va un peu dans tous les sens. On sent qu'elle commence à vaciller. On va commencer à voir dans les archives de police une forme de maladie qui s'accentue au fur et à mesure des années qui vont passer.
Est-ce que vous attendiez à ce qu'elle ait eu un destin aussi tragique au moment où vous avez démarré vos recherches ?
Non, à aucun moment j'ai pu envisager qu'elle était internée et que son destin serait celui-ci. C'est assez dur quand on fait une biographie, qu'on consacre toutes ses recherches à une personne, de voir la façon dont elle termine sa vie, quoi.
C'était Marie Denisard, de la présidentielle à l'asile. Premier épisode, une candidate d'avant-garde. Merci à Priscilla da Silva et Mathilde Larère. Lecture, Anne de Pefeillou et Charles Morillon. Un documentaire de Camille Desombre, réalisé par Anne de Pelchin. À suivre, le deuxième épisode, l'interminable internement.